en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Patrick Charnay, bonjour. Alors, depuis le mardi 14 juin 2005, vous êtes officiellement académicien des sciences, comme 23 de vos collègues. Depuis 96, vous étiez élu correspondant. Et aujourd'hui, vous faites donc partie de la section biologie cellulaire, moléculaire et génomique. Vous faites désormais partie des 200 académiciens des sciences. Vous êtes aujourd'hui dans les studios de Canal Académie pour qu'on puisse lever le voile sur votre carrière. Alors commençons sans plus tarder, si vous le voulez bien. Vous avez 51 ans, si on peut le dire.
Oui.
Et vous exercez.
Il n'y a pas de honte à ça.
Et vous êtes actuellement directeur de recherche à l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, dans l'unité biologie moléculaire du développement, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Alors comment en êtes-vous venu à vous intéresser à un sujet aussi pointu que la génétique moléculaire du développement ?
Alors là, c'est une longue histoire.
Vous saviez que vous venez travailler dans la recherche dès le départ ?
Oui, ça, je pense que je l'ai su relativement tôt. Enfin, je pense que je l'ai su dès que j'étais enfant. Mais dans quel domaine, bien entendu, je ne le savais pas. En fait, pendant, je pense, toute ma jeunesse, je me destinais à devenir chimiste. J'étais un peu fasciné par les réactions chimiques. Je trouvais que ça avait un caractère extrêmement spectaculaire et je trouvais ça assez fascinant.
Vous aviez déjà un esprit scientifique ?
Je crois, oui. J'étais un peu préformaté en quelque sorte pour ce domaine. Et puis, j'ai suivi un cursus scolaire, disons, standard quand on est un bon élève. J'ai abouti à l'école polytechnique. Et puis là, en fait, j'ai essayé de faire de la chimie. Et puis, j'ai travailler dans les laboratoires de chimie et en fait je me suis aperçu que la vision que j'avais de la chimie c'était la chimie du 19e siècle, c'est-à-dire c'était une espèce un peu de cuisine, et que la chimie qui se pratiquait disons vers la fin du 20e siècle, c'était plus du tout ça, et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup moins. Mais en même temps je me suis aperçu que la biologie, puisque j'ai pu en découvrir quelques aspects à ce moment-là également.
À Polytechnique ?
Oui. En fait, correspondait très bien à l'idée que je me faisais de la chimie. C'est la raison pour laquelle j'ai à ce moment-là bifurqué. Et j'ai décidé, en tout cas, d'essayer de commencer à m'intéresser à la biologie. Je pensais biochimie à l'époque, parce que justement, c'était le pont. Bon, et puis, il se trouve que j'ai eu la chance de faire ce saut à un moment qui était tout à fait charnière dans l'évolution de la biologie, en sens que ça a été le moment où sont apparues les manipulations d'ADN, c'est-à-dire la capacité à modifier l'hérédité des organismes. Et ceci, c'est un changement tout à fait fondamental dans la biologie, en sens que la biologie, si vous voulez, on peut dire un avant et un après de cette période, car la biologie auparavant était une science essentiellement descriptive, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable d'intervenir vraiment sur les mécanismes, on pouvait tenter de les observer, éventuellement de les comprendre parfois, mais on n'était pas capable d'influer au niveau des gènes et donc de modifier le programme génétique qui gouvernait des tas de mécanismes dans les organismes vivants. Donc ça, c'est une transition extrêmement importante.
Et vous nagez dedans en fait.
Je suis tombé dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Hein. En particulier, donc nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, ça a été donc d'isoler cette molécule du génome du virus de l'hépatite B. L'idée, c'était de pouvoir produire ce qu'on appelle l'antigène vaccinant, c'est-à-dire en fait une des protéines du virus qu'on ne peut pas purifier facilement, aisément, et disons, la purification est possible à partir de porteurs du virus, mais elle pose des problèmes de sécurité qui sont devenus de plus en plus difficiles à traiter. Donc l'idée, c'était plutôt de fabriquer dans le laboratoire cette protéine, et pour ça, il fallait disposer du morceau d'ADN qui codait pour cette protéine. Donc on a pu isoler l'ADN du virus en le clonant dans la bactérie, ensuite établir la séquence nucléotidique, c'est-à-dire le code en quelque sorte qui gouverne l'expression des protéines de ce génome viral, et enfin produire effectivement cette protéine dans la bactérie. Donc ça, c'est clair que ça constituait les bases, en quelque sorte, de ce qu'est actuellement le vaccin, puisque le vaccin, bon, il est plus produit dans la bactérie, il est produit dans de la levure, mais le principe était établi, et les éléments, en particulier donc la séquence codante pour cette protéine, était définie par notre travail.
Et combien de temps vous a pris cette recherche? À chaque fois, c'est sur plusieurs années.
Oui, c'est sur plusieurs années, bien entendu, mais je dirais que ça a été relativement rapide. À partir du moment où on s'est lancé dans l'étude du virus, ça nous a pris peut-être un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Donc, ce qui, à l'échelle d'un chercheur, finalement, c'est une période très courte. On peut considérer que c'est très bref. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que si on devait refaire cette expérience aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose aujourd'hui, ça nous prendrait 15 jours. Bon, évidemment, là, il y a eu des améliorations techniques tout à fait considérables. Donc, on peut faire maintenant des choses encore beaucoup plus sophistiquées, bien entendu, que ce dont on était capable à cette époque-là.
Et alors, aujourd'hui, à l'INSERM, en quoi consistent vos travaux? Quels sont vos projets principaux?
Donc, aujourd'hui, bon, ma thématique a changé de façon tout à fait radicale. Ce à quoi je m'intéresse, c'est de façon générale ce qu'on pourrait appeler les mécanismes de régulation génétique, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels la production de toutes les protéines d'une cellule ou d'un organisme est contrôlée, et de façon ultime, en quelque sorte, la façon dont cette expression différentielle de protéines va contrôler des mécanismes au niveau de l'organisme lui-même, en particulier, par exemple, l'organogénèse, la formation de certains tissus. Nous, ce qui nous intéresse plus spécifiquement, en fait, c'est la mise en place du système nerveux. Mais donc, on regarde cet aspect du développement des vertébrés en général et de l'homme en particulier. On ne peut pas faire, évidemment, d'expérimentation chez l'homme. Mais on en dispose de modèles qui nous permettent de reproduire plus ou moins fidèlement ce qui se passe chez l'homme, la souris, mais également le poisson ou le poulet. Eh bien, donc notre thématique, c'est de comprendre comment cette organisation est établie, comment elle est codée au niveau de l'organisation des gènes. Alors, les gènes sont organisés eux-mêmes en une espèce de hiérarchie qui aboutit à la formation de réseaux qui sont extrêmement complexes, puisque le nombre de gènes déjà est important. Hein. Chez l'homme, on estime actuellement que le nombre total de gènes est de l'ordre d'une trentaine de milliers. Donc, si vous imaginez que chacun de ces gènes à des relations, en quelque sorte, des interactions avec peut-être seulement un millier d'autres gènes, vous avez un réseau qui est d'une
complexité... C'est un coefficient des multiplicateurs énorme.
Vous avez un réseau qui est d'une complexité tout à fait fabuleuse. Et donc, je pense que c'est l'un des défis actuellement de la biologie, avec un défi analogue qui est de comprendre, en fait, l'organisation des réseaux neuronaux, hein, qui est un autre potentiel futur de la biologie, c'est de comprendre l'organisation de ces réseaux géniques qui vont gouverner ce fonctionnement. Donc, dans ces conditions, il peut y avoir des observations qui vont découler de notre travail un peu par accident et qui auront des applications. Donc, je vous donne un exemple. On travaille sur un gène particulier qui, on a pu montrer ça chez la souris et on a découvert ça un peu par accident. On a découvert que ce gène est nécessaire à la formation de la couche de myéline dans le système nerveux périphérique. Qu'est-ce que c'est? Bon, la myéline, c'est une espèce de couche isolante qui entoure les prolongements des cellules nerveuses et qui accélère le passage de l'influx nerveux. Si votre myéline est déficiente, eh bien, vous avez de gros problèmes et vous risquez des paralysies. Eh bien, on a découvert un gène et par accident, on s'est aperçu que ce gène était très important chez la souris pour la mise en place de cette couche de myéline. Et bien, par la suite, il y a d'autres équipes qui ont identifié des gens qui souffraient de paralysie périphérique et qui, justement, sur la base de nos travaux, ils ont recherché s'il n'y avait pas un dysfonctionnement au niveau de ce gène particulier et ils en ont trouvé. Donc là, on a une application tout à fait évidente de nos travaux, mais qui n'était pas du tout motivée, en quelque sorte, au départ, dans notre cheminement, en quelque sorte.
Venons-en à votre entrée à l'Académie des sciences.
Investigation au niveau scientifique, bon, ben 200 personnes, c'est loin de pouvoir couvrir tous ces champs. La diversité de la science est telle, et la spécialisation de plus en plus importante des investigateurs fait que ça devient très difficile d'avoir une couverture relativement large, et c'est ce qui a motivé, en fait, c'est l'une des raisons qui a motivé l'accroissement du nombre de membres de l'Académie, parce que justement, le champ de la science augmente sans cesse, et il n'est plus question qu'une centaine de personnes puissent le couvrir de façon efficace. Donc, non, c'était une très bonne initiative, en fait, je crois, d'accroître le nombre de membres. Ça permet. D'ailleurs, on le retrouve à un autre niveau, qui est que vous mentionniez au tout début de notre entretien, je crois. L'intitulé de la section à laquelle j'appartiens, et cet intitulé a été changé très récemment pour inclure le mot génomique,
oui, qui est biologie cellulaire, moléculaire et génomique.
Oui, et donc ça, ça correspond justement à un développement dans notre domaine tout à fait important qui s'est produit au cours des 5-10 dernières années, avec des nouvelles technologies qui nous permettent de non plus nous intéresser à un gène à la fois, mais à nous intéresser à tous les gènes d'un organisme. C'est-à-dire que, au lieu de regarder le comportement d'un gène chez la souris, eh bien, on va regarder le comportement des 30 000 gènes de la souris ou éventuellement de l'homme. Et vous pouvez imaginer que dans ces conditions, évidemment, la quantité d'informations qu'on va retirer de pouvoir appliquer des approches aussi globales est tout à fait considérable. Donc là, il y a un changement d'échelle. J'évoquais tout à l'heure la transition importante qui s'est passée avec l'apparition de notre capacité à manipuler les molécules d'ADN, hein, ce qu'on a appelé les manipulations génétiques, avec une connotation qui n'est pas toujours positive. Hein, on peut l'appeler également le génie génétique, ce qui est certainement plus positif. Bon, je pense que ça a été une véritable révolution en biologie. Et bien là, on est en train d'en vivre une deuxième, en fait, avec l'apparition de la génomique et des techniques qui sont associées, qui va accélérer de façon radicale notre acquisition de connaissances sur le comportement, la fonction et l'implication des gènes dans les phénomènes biologiques.
Merci Patrick Charnay, je rappelle que vous venez d'être fait académicien au sein de l'Académie des sciences et c'était donc le 14 juin 2005. Merci.
Merci beaucoup à vous aussi.